France Culture.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître une invitée pour décrypter avec elle son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invitée n'est plus sur le devant de la scène, elle cultive l'art d'être grand-mère. Née à Sceaux dans les Hauts-de-Seine en 1949, elle grandit au-dessus du garage familial avant qu'il ne fasse faillite et que sa mère l'élève seule avec ses six frères et sœurs à Angers dans le Maine-et-Loire. Mai 68, elle est en terminale, le bruit des pavés arrive jusque dans sa classe de philosophie. « J'étais une révoltée qui bouillonnait », écrira-t-elle plus tard. Employée de mairie au Plessis-Robinson, puis adjointe au maire de Châtenay-Malabry, le Parti communiste et ses scores à deux chiffres l'accueillent comme une deuxième famille, au point d'en devenir à 52 ans la première secrétaire nationale. 1997, dissolution, cohabitation, gauche plurielle, coalition, arc-en-ciel. Elle entre au gouvernement de Lionel Jospin comme ministre de la Jeunesse et des Sports, une autre famille qu'elle ne connaît pas et qu'il adopte, avec en point d'orgue la Coupe du Monde 98. La France est black blanc beurre, mais ça ne durera pas. L'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de 2002 et les émeutes en banlieue. Députée de la Seine-Saint-Denis pendant 20 ans, elle défend l'égalité et la laïcité. Elle regrette le manque de politique publique dans le sport. Aujourd'hui, deux gymnases portent son nom. Elle pense qu'en politique, il faut des sentiments. Son mot préféré, engagement. Ça tombe bien, on est là pour en chercher le sens. Bonjour Marie-Georges Buffet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous écouter comme chaque samedi. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Votre parole est rare, Marie-Georges Buffet. Alors j'aimerais pour commencer que vous puissiez nous décrire ce que vous pensez de la situation politique actuelle.
Ce que j'en pense... Ce qu'en pensent beaucoup d'hommes et de femmes que je rencontre tous les jours, c'est beaucoup d'inquiétude. D'inquiétude au plan de la paix, mise en cause, aussi bien sûr en Ukraine, mais aussi avec ce qui se passe à Gaza. Inquiétude par rapport à la situation économique, avec les déclarations et les décisions à patatabrant du président Trump. Inquiétude aussi sur l'emploi en France, avec toutes ces entreprises qui annoncent leur fermeture. Et puis, inquiétude plus largement par rapport à des comportements, à un individualisme montant, à un masculinisme qui revient en force, y compris dans les jeunes générations. Donc, je pense que toutes les rencontres que j'ai, c'est il y a besoin de rassurer, mais pas de rassurer bêtement, de rassurer en disant il y a peut-être d'autres perspectives possibles, il y a peut-être d'autres propositions à mettre en œuvre. Encore faut-il que la gauche soit capable de le faire.
Vous êtes devenue ministre en 1997 après la dissolution ratée de Jacques Chirac. Comment avez-vous vécu la dissolution d'Emmanuel Macron l'été dernier ?
Écoutez, je venais de quitter mon mandat en 2022. Nous avions élu Soumia Bourouaha comme députée de Blanc-Mesnil, de Duny, de Stain et de la Courneuve. Et il a fallu repartir en campagne. Donc, je suis avec elle repartie en campagne. Et voilà, nous avons rassemblé, nous avons mobilisé. Non, là, le contre-coup, ça a été les gens qu'on avait convaincus de venir voter après la dissolution. Et qui nous ont dit après, mais vous nous avez dit de venir voter, on a voté, on vous a élu, et en fait on n'a pas respecté notre vote puisqu'on n'a pas eu de gouvernement du Nouveau Front Populaire. Donc une sorte de retombée négative après le comportement du président de la République qui n'a pas voulu donner à la majorité de gauche le gouvernement qui était le sien.
Depuis 5 ans, la droite a enclenché la régression des droits sociaux. Pour beaucoup, la vie est très dure. Pour la jeunesse, trouver un travail, une bonne formation, c'est le parcours du combattant. La droite tente de précariser à vie tous les salariés. Le droit à la retraite, au logement, à la santé. Ces droits fondamentaux sont dans le viseur de Sarkozy et de son frère jumeau, Bérou. Ils veulent construire une société du profit, où l'humain ne compte plus. À ces inégalités sociales, s'ajoutent les discriminations qui portent atteinte à la dignité des personnes. Les femmes sont payées 21% de moins que les hommes. À formation égale, un jeune issu d'un quartier populaire aura moins de chances de trouver un emploi. Nous méritons mieux qu'une société de violence économique.
Un extrait de votre clip officiel Marie-Georges Buffet pendant la campagne présidentielle de 2007. Vous parliez de vos adversaires de l'époque, Nicolas Sarkozy, et son jumeau, François Bayrou, qui aujourd'hui est à Matignon. Vous diriez la même chose ?
Oui, parce que je pense que le Premier ministre, François Bayrou, mène une politique d'une droite extrême. Et puis, je trouve que le personnage, s'en prenant, exprimant un doute sur la justice, ou s'en prenant encore plus récemment sur, les gendarmes, les magistrats peuvent se tromper. C'est pas digne d'un homme qui est Premier ministre de la République française. On respecte la justice, on respecte les forces de sécurité, et surtout, on respecte une certaine morale. S'il y a des choses à se reprocher, eh bien, on rend son tablier. Voilà. Tout simplement.
Là, vous pensez à Bétaram ?
Je pense à Bétaram, et puis voilà, je pense à toute une série de paroles qu'a eu le Premier ministre depuis qu'il est en poste, je ne sens pas le sens de la République et de ses valeurs.
Vous pensez qu'il devrait démissionner, vous, Marie-Jean?
Oui, ça serait bien. J'espère qu'il y aura une motion de censure assez rapidement.
Lors de votre... Je reviens à cet extrait qu'on vient d'entendre, Marie-Georges Buffet. On est en 2007 et vous avez, pendant cette campagne, fait un grand meeting à Marseille. Vous dites que c'est une ville que vous aimez beaucoup. Et ce jour-là, vous dites « Bayrou, c'est la droite et on le battra ». Résultat des courses, il est quand même le troisième homme de la campagne, 18,5%. Vous faites 1,93%. C'est le score le plus bas du Parti communiste français. Vous racontez à La Croix les difficultés que ça a été pour vous, cette après-campagne. J'ai le sentiment d'un échec personnel extrêmement fort. Vous devez même consulter un médecin pour des douleurs physiques et des vertiges.
Oui, parce que c'est pas simplement ma personne, bien sûr. C'est un coup très dur au plan individuel. Mais j'étais la candidate d'un parti, du Parti communiste français, et de ses militantes et militants. Et quelque part, ce score... ça tombe sur la tête de tous ces militants et militantes qui pourtant se sont ont agi, ont fait des choses, ont été débattre, ont été discuter. C'est pourquoi après je me suis dit qu'il fallait cesser d'être dans cette position où le Parti communiste devait à tout prix avoir un candidat, une candidate, où le Parti communiste devait à tout prix défendre ses couleurs, et que c'est en tirant les leçons de cet échec terrible que j'ai proposé d'aller vers un front de gauche, c'est-à-dire de construire quelque chose de neuf à gauche, permettant de rassembler les différentes sensibilités à gauche et peut-être d'aller vers une sorte de programme commun renouvelé, un programme commun de cette époque. On a marqué quelques points dans ce sens, et puis de nouveau... il y a eu des divisions, et puis il y a eu la NUPES, puis il y a eu des divisions, puis il y a eu le Nouveau Front Populaire, et la gauche se redivise. J'ai envie de dire fous qui se dispersent alors que le danger est si proche, alors qu'on peut avoir l'extrême droite au pouvoir en France et qu'on a déjà une droite extrême qui est au pouvoir. Il faut que la gauche dépasse ses différences, se rassemble et aille à la victoire ensemble.
Ça veut dire un candidat unique de François Hollande à Jean-Luc Mélenchon ?
Mais il faut un candidat ou une candidate unique de la gauche, bien évidemment. Moi, c'est ce que j'essaye de construire dans ma ville de Blanc-Mesnil pour les municipales en 2026. On a fait une très belle réunion il y a 2 jours, où il y avait différents partis de gauche, mais il y avait aussi des collectifs citoyens, des jeunes, des associations de jeunes, qui ont dit « on est partant si on se respecte, si chacun a sa place, sans plus ». Et ben voilà.
Sauf que dans une campagne présidentielle, et vous le savez mieux que personne, Marie-Georges Buffet, il y a une seule personne qui prend la lumière.
Mais cette personne, elle peut porter l'espoir du peuple de gauche. C'est quand même une mission extraordinaire. On ne peut pas rêver à ça, on ne peut pas donner l'espoir à notre population de enfin avoir un gouvernement qui représente les espoirs populaires au lieu de représenter les intérêts des multimilliardaires.
Mais vous la voyez, cette personne, dans le paysage actuel ?
Mais je m'en fiche, excusez-moi.
C'est toujours ce que répondent les
personnalités de gauche. Non, mais je m'en fiche. Mettons-nous d'abord d'accord sur le fait qu'il faut un candidat commun, une candidate commun, et puis ensuite, eh bien, on trouvera la personne qui portera les espoirs de tout le peuple de gauche.
Fabien Roussel est à la tête du PCF depuis 2018. Il a été, lui, candidat en 2022. Vous ne l'avez pas soutenu, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon ?
J'ai respecté le choix des militantes et des militantes de mon parti, même si je n'étais pas d'accord à la division des candidatures, et j'ai donc fait campagne pour le candidat de mon parti.
Donc, vous le soutenez toujours pour...
C'est le secrétaire national du parti, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais ce n'est pas lui. J'ai parfois... Ça fait 56 ans, je suis membre du Parti communiste, j'ai adhéré en 69. Je me suis trouvée parfois en désaccord avec la direction nationale. Je suis pas toujours d'accord avec ce qui se dit dans les conseils nationaux, etc. Des fois, je me dis, est-ce qu'il faut que je divorce? Bon, puis je me dis non, je vais pas divorcer parce que c'est mon combat pour une société nouvelle. C'est mon combat aux côtés des militantes et des militants de mon parti. Et je vais pas comme ça tourner la page. Mais bon, c'est le droit aussi à un débat démocratique à l'intérieur du Parti communiste. On a le droit aussi de défendre des options, des opinions différentes.
Oui, j'avais vu sur dans le Parisien que le 15 novembre 2020, avec le maire de la Courneuve, Gilles Pou, vous souteniez Jean-Luc Mélenchon, mais en fait non. Vous n'aviez pas soutenu Jean-Luc Mélenchon.
J'ai soutenu la candidature Jean-Luc Mélenchon lorsqu'elle a été la candidature commune. Hein, donc, pendant deux présidentielles, à la troisième présidentielle, j'aurais souhaité que ce soit aussi la candidature commune. Les militants de mon parti ont fait un choix différent, j'ai respecté ce choix.
Est-ce que vous reconnaissez l'homme avec qui vous avez combattu le référendum de 2005, avec qui vous avez créé le Front de Gauche en 2008?
La campagne de 2005 a été une campagne d'éducation populaire magnifique, extraordinaire, où face à de nombreux médias, qui mélangeait le nom de gauche et le nom du Front National. Il y a eu un apprentissage du contenu du projet de Constitution européenne qui a fait que des hommes et des femmes ont choisi de s'y opposer, des hommes et des femmes de gauche. Et dans cette campagne, Jean-Luc Mélenchon a joué un rôle considérable, comme il l'a fait dans les deux premières campagnes des présidentielles, où il a fait appel à l'intelligence des hommes et des femmes, où il a fait appel à la qualité des propositions. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça n'empêche pas que je suis parfois en désaccord avec les propos qu'il peut tenir aujourd'hui.
Il a changé, vous diriez?
Comme moi, j'ai dû changer. On prend des années et puis parfois, peut-être qu'on s'impatiente, peut-être que voilà, qu'on a... Faut pas prendre la grosse tête, faut rester simple.
Il devrait prendre sa retraite, vous trouvez?
Enfin, moi, je ne prendrai pas ma retraite de militante. J'étais encore sur un marché ce matin, je distribuais des tracts. J'étais sur un marché hier matin, je distribuais des tracts. Il n'y a pas de retraite militante. À partir du moment où on est engagé pour changer la société, il faut continuer à se battre. Donc, il ne faut pas qu'il prenne sa retraite.
Ça peut être un bon candidat pour 2027.
Non, ce n'est pas un problème de candidat. Il faut que ça reste un militant.
On a cette question de Benjamin qui nous écrit sur Instagram depuis Marseille. Comment la base du parti ressent-elle les déclarations de Fabien Roussel? Il pense au barbecue, au racisme anti-blanc, ou encore à la manifestation des policiers, ou alors son opposition au RSA. Valide-t-il les thèses de l'extrême droite au lieu de la combattre?
Moi, je pense qu'on ne combattra pas l'extrême droite en flattant ses idées. Il faut les combattre de façon frontale. Le RSA... C'est en effet quelque chose de nécessaire pour des personnes qui sont vraiment à la fin d'un parcours sans pouvoir trouver un emploi. Il faut accompagner ces personnes pour qu'elles trouvent un emploi, bien évidemment, mais le RSA est un droit. Il faut préserver ce droit.
Vous étiez même favorable dans ce livre Un peu de courage que vous avez sorti d'ailleurs en 2005, au Cherche Midi, vous étiez même favorable à élargir le RSA aux 18-25 ans.
Oui, parce que nous avons aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont majeurs. Ils sont souvent en arrêt d'études et ils ont du mal à trouver un emploi, donc il faut les accompagner. Mais le RSA doit être, comment je dirais, accompagné d'un soutien à la recherche d'emploi, mais parfois à la recherche d'une nouvelle formation pour trouver un emploi.
Donc pour répondre à Benjamin, les déclarations de Fabien Roussel quand il dit « moi je suis contre le RSA », vous sentez que sur le terrain c'est pas très bien accueilli?
Moi je ne partage pas ces déclarations.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
Vous avez été la seule femme à diriger le Parti communiste français, Marie-Georges Buffet. Le vivez-vous comme une fierté?
Oui, mais ma fierté, elle remonte à avant. Nous avions une très grande commission des droits des femmes, qui a toujours fonctionné, avec des dirigeantes historiques comme Madeleine Vincent et d'autres, Gisèle Moreau. Et nous avions du mal à passer le passage, à aller vers le féminisme, parce que c'était l'idée que le socialisme qu'on allait mettre en place, allait régler les inégalités entre les hommes et les femmes. C'était complètement ignorer ce qu'était le fond de la domination patriarcale qui s'était structurée au fil des siècles et tout. Et on a réussi, alors j'étais à l'époque pas dirigeante du parti, on a réussi avec plein de copines, et dont Madeleine Vincent, où nous avons fait un livre qui s'appelait « Féminisme et communisme, une histoire mouvementée ». Et nous avons réussi à faire en sorte que le Parti communiste s'inscrive dans le combat féministe. Le Parti communiste a adhéré à ce moment-là au collectif féministe et a participé depuis à toutes les manifestations féministes. Et pour moi, c'était une grande victoire que le Parti communiste considère que le combat féministe était un combat en soi, que le socialisme lui-même ne pouvait pas régler.
Quel est le pire comportement sexiste que vous avez vécu en politique ou ailleurs ?
Oh, j'ai un souvenir. Il y avait un débat organisé par un journal. Oh, je vais le citer, c'était Les Échos. Et le journaliste, il y avait trois anciens ministres des Sports et moi. Trois hommes et moi. Et le journaliste se tourne vers la salle et dit, vous avez des hommes politiques à votre disposition. Je le coupe, je lui dis, excusez-moi, mais je suis une femme politique. Il se retourne, il me regarde, il me dit, et vous n'allez pas nous faire aussi l'écriture inclusive? C'était pas au 19e siècle.
En travaillant sur l'émission avec Léa Varin, on est tombé sur beaucoup d'archives, évidemment, de vous, Marie-Georges Buffet. Et c'est vrai que même au sein de votre propre parti, il y avait des propos qui étaient totalement tolérés. À l'époque, d'ailleurs, Maxime Grémetz, le député communiste, qui vous conseillait de lire, il disait que vous n'étiez pas assez cultivé comme secrétaire national du PCF. Éric Zemmour, sur le plateau d'On n'est pas couché, avec qui vous avez un échange très dur sur les femmes qu'on disait à l'époque battues. Et même vous raconter, j'aime bien cette anecdote, quand vous êtes adjointe au maire de Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine en 1977, vous avez 28 ans, vous avez des enfants en bas âge, vous faites une permanence à la mairie et vous croisez le directeur de l'école de votre fils qui dit « pas étonnant que votre fils ait des difficultés en lecture ».
Oui, parce que l'idée que la femme est en charge de l'éducation des enfants et doit être dans son foyer pour s'occuper de tout cela, voilà, demeure. Et on avait l'impression dans les années 90-2000 que tout cela était derrière nous. Et moi, je sens remonter ces discours. J'ai entendu, par exemple, un élève de terminale m'expliquer qu'il y avait des sports féminins et des sports masculins. Parce que quand même, le corps de la femme, voilà, il y a certains sports, ça ne convenait pas. J'ai entendu un autre élève m'expliquer que c'était normal, la différence de salaire pour le même diplôme et pour le même emploi, parce que quand même, il y avait les congés maternité. Et qu'on n'allait pas payer les femmes au même salaire alors qu'il y avait les congés maternité. Donc, vous voyez, ce combat pour faire reconnaître la pleine place des femmes dans la vie publique, c'est-à-dire casser l'idée que l'homme, c'est la cité, et la femme, c'est le foyer, c'est-à-dire cette idée qui s'est inscrite dans nos sociétés, la femme, elle a toute sa place dans la vie de la cité, et à tous les niveaux. Et j'espère qu'un jour, on aura peut-être une femme présidente de la République. Parce que, voilà, il faut que la femme... Voilà, soit en capacité, elle l'est, et donc que la société reconnaisse qu'elle est en capacité d'occuper tous ces postes de responsabilité.
Quelle était votre arme secrète pour vous imposer dans le milieu politique dans ces années-là ?
Ne jamais rien laisser passer. Et je me rappelle au début, quand je suis arrivée à l'Assemblée, on était encore peu, hein, les femmes. Aujourd'hui, elles sont entre 37, 38, parfois 39 selon les législatures, mais on était peu. Les remarques sexistes sur la tenue. Il a fallu qu'on se batte pour pouvoir entrer en pantalon dans l'hémicycle. Ben oui.
Ah bon?
C'était pas autorisé. C'est Gisèle Moreau qui a franchi la barrière. C'était pas autorisé. Bon, donc, les remarques sexistes, par exemple, un homme qui crie à la tribune, c'est un grand orateur. C'est évident. Une femme qui s'énerve à la tribune, elle est hystérique. C'est bien connu. Voilà. C'est tous ces clichés. Enfin, moi, je le dis quand je vais faire des débats et tout dans les lycées, ça, je leur dis, ne laissez rien passer. Chaque fois, réagissez. Et à force de réagir, ça cloue des becs.
Alors, Marie-Georges Buffet, on le sait peu, mais vous n'avez pas grandi dans une famille communiste. Vous racontez que votre père était un lecteur de l'Aurore, journal qui a été absorbé par le Figaro en 1985. Votre enfance est assez difficile, hein, au-dessus du garage familial, puisque votre père fait faillite. Et d'après ce qu'on a pu lire avec Léa Varin pour préparer cette émission, votre père est envoyé en prison à Fresnes.
Oui, parce que à l'époque, c'était lié au fait de faillite. Moi, j'en sais pas plus. Hein. On n'a jamais vraiment su les raisons. Il reste très peu de temps. Puis ensuite, ben, je pense parce que voilà, ça, la honte peut-être, il part. On n'a plus de nouvelles. Et mon père est réapparu à l'anniversaire des 1 an de mon fils, donc quelques dizaines d'années après. Et les 7, on a eu parfois un peu de mal, mais on l'a accueilli. Il est devenu le grand-père, on n'avait pas eu le père, mais il est devenu le grand-père. Et ça s'est bien passé jusqu'à son décès, ça s'est bien passé.
Votre mère vous élève tous les sept toute seule. Et vous racontez, c'était dans Le Monde en avril 2023, à quel point ces difficultés, notamment pour se soigner, ont pu contribuer à votre engagement. Un jour, elle revient de chez le dentiste avec, vous dites, les dents foutues. Vous dites, mais merde, ma mère, la dentition, encore aujourd'hui, est un signe de pauvreté.
Oui, c'est vrai, parce que à l'époque, bon, elle a une attaque sur les dents et tout, et la seule solution, c'est de les, en fait, qu'on lui propose, c'est de les arracher. Sans d'autres solutions après. Et elle revient à pied. La clinique, c'est moi, tu lui ouvres dans le garage fermé, il lui ouvre la porte. Et souvent, j'en parle avec d'autres personnes qui ont vécu ça, parce que même quand vous regardez parfois des femmes, par exemple, qui ont eu des bébés, etc., des femmes très modestes, et vous voyez que la dentition est abîmée suite aux maternités et tout, et que les soins pour faire en sorte que la dentition reste belle et tout n'ont pas été faits. Vous dites que c'est encore un aspect de classe quand même, quelque part. Et j'entendais en venant une représentante des mutuelles de France ou de je sais pas quoi, qui expliquait qu'ils allaient quand même beaucoup plus encadrer tout ce qu'étaient les soins de lunettes, d'audio, de dentaire, etc. La sécurité sociale, c'est un des plus beaux acquis de notre société, de notre République. Il ne faut surtout pas y toucher.
Vous arrivez au lycée à Angers. En mai 68, vous êtes en terminale. Vous mettez toute votre classe en grève, Marie-Georges Buffet.
Oh oui, ça a été... c'est-à-dire que c'était un lycée de filles. Moi, je venais d'un lycée MITS à Antony, dont j'étais habituée à la mixité. Et puis, j'arrive en terminale à Angers. C'était un lycée de filles. Et les garçons du lycée étaient en grève et venaient manifester devant nos portes. Donc, on a été deux, trois, croiser les bras en cours de philo. Donc, la proviseure est venue. Elle nous a reçus dans la cour. Elle nous a pas reçus dans son bureau pour nous marquer que, quand même, on n'était pas grand-chose. Elle nous a dit de raccrocher nos blouses. Et puis, on n'a pas cédé. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'engager. C'est mon premier geste d'engagement.
Est-ce qu'à cette période-là, vous devinez que vous ferez de la politique un jour?
Non, j'ai commencé vraiment à m'engager, c'est quand je suis arrivée en CTU, puisqu'à l'époque, nous avions la chance, en étant boursière, d'avoir une chambre en CTU, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui pour les jeunes. Et on a créé une association contre une augmentation des loyers. Et on a fait 9 mois de grève des loyers en CTU. Et ça s'est répandu dans toute la France. On a créé la Fédération des résidences universitaires de France. Et c'est comme ça que j'ai appris à militer et j'ai adhéré au parti par correspondance, parce que je connaissais pas de communiste, donc j'ai écrit une lettre au siège du parti de l'époque. J'ai reçu une réponse de Gaston Plissonnier, un dirigeant de l'époque, et je suis arrivé à un point de vente de l'Humanité Dimanche, en leur montrant la réponse de Gaston Plissonnier, en disant voilà, et j'ai été accueilli magnifiquement par la cellule de quartier.
Oui, vous dites que c'était comme une nouvelle famille, j'appréciais la chaleur du Parti communiste. Vous êtes aussi séduite par les scores du Parti communiste de l'époque. Hein. On l'oublie, mais enfin, en 1969, Jacques Duclos, 21,27% à la présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Georges Buffet? Pourquoi il s'est effondré, ce parti?
Je pense qu'il y a l'histoire des pays socialistes et du résultat, du bilan de ces pays socialistes, et donc de l'image du communisme et du socialisme dans la tête des gens. Je pense que, malgré certaines tentatives qu'ont fait plusieurs dirigeants, Georges Marchais, quand il a essayé de promouvoir le socialisme à la française, puis Robert Hue, lorsqu'il a essayé de promouvoir la mutation du Parti communiste et tout, on n'a pas été assez loin, je pense, dans un nouveau projet qui coupe réellement avec ce qu'ont été ou ce que sont encore des pays qui se réfèrent au socialisme.
Surtout quand on vous lit dans ce livre, Un peu de courage, paru au Cherche Midi en 2005, on a l'impression que le programme de gauche ou de la gauche que vous représentez n'a pas changé sur le réchauffement climatique, sur la lutte contre les grandes entreprises, sur les discriminations. En fait, comme si votre programme était toujours d'actualité, mais que vous n'aviez jamais pu le mettre en exercice.
Non, je crois que...
L'appliquer.
Non. Je crois que, au fur et à mesure, les programmes de la gauche s'enrichissent. Notamment, je pense que les questions écologiques ont pris beaucoup plus de place qu'ils n'avaient à une époque dans nos programmes. La question, c'est quel que soit le bien fondé de nos propositions, leur aspect efficace, etc. Si les gens ont l'impression que ces propositions ne pourront jamais être mises en œuvre parce que nous n'avons pas la capacité de nous rassembler et de gagner, ben, les gens se désintéressent de ces propositions. Quel intérêt de défendre un parti si ce parti, par son attitude, n'a pas vocation un jour à mettre en œuvre ses propositions en prenant une majorité dans ce pays. Donc la question qu'a la gauche aujourd'hui, il faut encore améliorer nos propositions, il faut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de débats citoyens, etc. Mais il faut surtout qu'on dise aux gens, on veut gagner, on veut y aller. Et pour ça, on va rester ensemble jusqu'au bout. Parce que sinon, c'est pas la peine. Moi, je comprends que les gens se disent, bon, ben, vous avez de belles propositions, mais enfin, si c'est pour qu'elles restent dans un tiroir, à quoi ça sert?
Vous avez encore un peu d'espoir, Marie-Georges Buffet?
Je dirais que si j'avais plus d'espoir, je n'aurais pas encore ces gestes militants que j'ai. Et puis, mais qu'est-ce qui me donne de l'espoir? C'est quand je sors de chez moi, je me fais arrêter dans la rue et des hommes et des femmes me posent des questions, me disent des choses. Voilà, je vais vous dire un truc qui m'a profondément marqué. Il y a quelques jours, un monsieur qui me tutoie, qui m'appelle Marie-Georges, que je croise souvent, un monsieur aussi âgé que moi, on va dire, qui me parle de sa santé, de sa femme, et puis d'un seul coup, il me dit, mais dis donc, Marie-Georges, t'as vu, hein? T'as vu tous les nègres à Blanc-Ménil? Je lui dis, pardon? Tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire, là? Tu parles de qui, là? Et je commence à discuter. Et je me dis, peut-être que s'il avait dit ça à quelqu'un d'autre, et que la personne n'avait pas réagi, il serait resté, il serait parti, il serait rentré chez lui en disant, bah oui, hein, et... heureusement, le hasard fait qu'il me l'a dit à moi. Et donc j'ai discuté, j'ai argumenté, etc. Donc, c'est ça qui fonde encore mon engagement. Est-ce qu'on peut encore faire de l'éducation populaire? Est-ce qu'on peut encore contredire ces idées qui règnent massivement dans les médias, etc.
Vous voulez dire que la gauche aille plus sur le terrain?
Il faut, c'est l'essentiel.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villaine.
Une seconde. Je voudrais saluer au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes, les 4000 jeunes qui viennent de la France entière. Qui viennent de la France entière, de métropoles, des départements et des territoires d'outre-mer. Et je leur fais un cadeau. Le plus beau cadeau qu'il puisse rêver, l'équipe de France. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Et en votre nom à tous, je voudrais leur dire notre admiration, notre reconnaissance et notre amitié. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. Et je vais demander maintenant à celles qui ne sont pas pour peu dans cette victoire, c'est-à-dire à leurs épouses, de bien vouloir nous rejoindre. On va demander à ces dames de venir.
Ça vous fait réagir, Marie-Georges Buffet. Vous êtes sur place, vous, hein?
Oui, bien sûr.
On est le
14 juillet
1998, la fameuse Garden Party, en présence de l'équipe de France qui vient de remporter la Coupe du Monde. Le gouvernement est représenté par Lionel Jospin et vous, Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est Jacques Chirac qui accueille tout le monde sur le perron du jardin. Il y a une effervescence dingue sur les images. Vous faites un bain de foule avec Jacques Chirac. Qu'est-ce qui se passait? C'était une forme de parenthèse dans la cohabitation ce jour-là?
Vous employez un mot qu'on a entendu de nouveau cet été, lorsqu'on a parlé de la parenthèse enchantée avec les JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Oui, pendant la Coupe du Monde 98, on rêve. On rêve et au début, les gens sont pas très enthousiastes. Puis plus l'équipe de France obtient des bons résultats, plus, bien sûr, l'effervescence se lève. Et je me rappelle du retour du dernier match au Stade de France, où dans la rue, les gens descendent avec les drapeaux bleu, blanc, rouge, etc. La fête, comme on a eu la fête avec les JOP. Le problème, c'est qu'une fois que la fête est terminée, on passe à autre chose. Et on ne traite pas du sujet, qui est le sujet pourtant qui devrait être traité, c'est qu'est-ce que le sport apporte aux individus, qu'est-ce qu'il apporte à la société, qu'est-ce qu'il apporte à notre bien commun, et donc qu'est-ce qu'il faut qu'on donne au sport pour qu'il se développe. Et ça, en général, une fois que les tribunes présidentielles sont fermées dans les stades, ben, il se passe plus rien. C'est même pire. Le budget des sports a baissé considérablement dans le budget 2025.
174 millions d'euros de baisse.
174 millions de baisse.
On revient au niveau d'il y a 4 ans.
Voilà. Donc, ce sont de formidables occasions manquées, que ce soit 98 ou 2024, où il y a l'événement, et après l'événement, le sport redevient une question subalterne dont on ne parle pas en politique. Quand vous regardez les débats politiques dans une présidentielle ou dans des législatives, c'est une question qui ne vient pas. Comme si c'était, bon, aux bénévoles de régler ça. Alors que le sport, à partir du moment où il joue sur le comportement des individus, sur leur bien-être, où il joue sur le rapport des individus entre eux, devrait être une question essentielle au même titre que l'éducation, la culture ou la santé.
Oui, vous, c'est votre grand combat que le sport ne reste pas dans l'associatif, qu'il soit considéré comme une véritable politique publique. Aujourd'hui, c'est 0,15% le sport du budget global de l'État. Vous vous plaidez depuis longtemps pour 1%.
Bien sûr. Encore faut-il qu'il y ait une mobilisation pour cela. Je le dis à chaque fois, je fais un débat avec le mouvement sportif, c'était encore le cas samedi dernier et ce sera le cas mercredi prochain. Je leur dis, les acteurs et les actrices de la culture, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mobilisés, ils ont saisi l'opinion publique du 1% pour la culture et ils ont gagné. Si vous, le mouvement sportif, vous restez la deuxième grande muette, il y a l'armée et il y a le mouvement sportif qu'on n'entend jamais. Eh bien, on n'aura pas le 1%. Il faut vous mobiliser, il faut vous faire entendre. J'espère que ça va bouger.
Que ressentez-vous très précisément au Stade de France le 12 juillet 1998, Marie-Georges Buffet?
Ça va peut-être vous étonner, bien sûr, une grande joie. Mais surtout, je quitte la tribune très vite. Je vais à l'arrière parce que, pour moi, c'est la fin de la Coupe du Monde. Or, moi, je suis en responsabilité de l'organisation de cette Coupe du Monde. Il y a eu des incidents, il y a eu des problèmes d'hooliganisme et tout. Je rappelle toujours la mémoire, enfin, ce qu'a vécu l'officier Nivelle, etc. Bon, mais c'était fini, ça y est. C'était fini.
Vous soufflez?
Je souffle, exactement, c'est exactement. Après, je suis revenu à la tribune, mais j'avais besoin de dire, c'est fini.
J'ai réussi.
Enfin, pas moi toute seule, mais...
Quel rôle on a précisément quand on est ministre des Sports et que la Coupe du Monde se déroule à la maison?
Alors, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes aussi d'éthique, mais ce n'est pas trop la Coupe du Monde en elle-même. Enfin, je veux dire, les combats qu'un ministre ou qu'une ministre des Sports a à mener, ce sont des combats surtout pour que le sport reste un bienfait. Et donc, c'est un combat pour l'éthique. C'est un combat, bien sûr, contre la marchandisation du sport, contre l'instrumentalisation politique par certains États ou par certains hommes ou femmes politiques du sport. C'est un combat contre le dopage, c'est un combat contre l'excès, la recherche de performance à tout prix. Quand vous voyez, je parlais quelques instants avant le début de cette émission avec une ancienne gymnaste qui me racontait ce qu'elle a subi vers 13-14 ans. Dans son sport, je me dis quand même que se préoccuper de la préservation de la santé physique et psychique des athlètes, ça doit être le combat du ministre des Sports. Voilà, parce que...
Ça ne l'est pas aujourd'hui ?
Avec tout le respect que j'ai pour la ministre actuelle, et le problème, c'est le poids politique dans ce gouvernement ou dans les précédents gouvernements, quand les ministres des Sports, on les entend peu.
Là, on l'a entendu récemment sur la proposition de loi adoptée au Sénat pour l'interdiction du port de signes religieux dans les compétitions sportives. Oui. Quel est votre avis, vous, Marie-Georges Buffet, sur ce
D'abord,
sujet?
D'abord, je suis toujours étonnée qu'on sorte encore une loi là-dessus, parce que la loi de 2021 sur les principes de la République traitait de cette question. Je rappelle que la charte de déontologie du Comité national olympique et sportif français comporte dans ses articles la laïcité. Donc, je pense qu'il faut tout simplement respecter le principe de laïcité dans le sport. J'y tiens. Pourquoi j'y tiens?
Qu'est-ce que ça veut dire, le principe de laïcité dans le sport sur le voile?
Ça veut dire... Non, c'est pas le voile, c'est tout signe religieux.
Mais là, on comprend bien que derrière cette proposition de loi...
Derrière les propositions de Retailleau, il y a bien sûr le voile, il y a l'islamophobie, il y a tout cela. Bon. Moi, je vais prendre la question autrement. C'est la laïcité, par rapport à tous les signes religieux, etc. Mais c'est aussi le droit des femmes. Moi, vous savez, je préside une association pour le droit des femmes à exercer le sport en pleine liberté. Et je combats aux côtés de nos sœurs afghanes. Et nous avons reçu en France, ça a été une lourde bataille, des championnes, des athlètes afghanes. Au début, on leur a dit qu'il fallait qu'elles se couvrent, et puis qu'il fallait qu'elles couvrent leur corps, et puis ensuite, on leur a dit qu'il fallait qu'elles fassent du sport, mais dans des salles où il n'y avait pas de public. Ensuite, on leur a expliqué qu'il ne fallait pas qu'elles fassent du sport du tout, et on l'a interdit, le sport et l'éducation. Donc, pour la liberté des femmes, pour les droits des femmes, faisons en sorte que le sport soit accessible à tous et à toutes, et donc empêchons toute emprise religieuse sur le sport.
Mais j'ai du mal à comprendre votre position, Marie-Georges Buffet. On dirait que vous tenez les deux, mais par exemple, si on est à la tête d'une fédération sportive ou d'une association, est-ce qu'une femme a le droit de faire du foot avec un voile sur la tête dans une compétition de foot ?
Non, dans les règlements de la Fédération française de foot, il y a le principe de la laïcité.
C'est non.
C'est non. Non ?
Sens politique, l'archive de l'invité.
En 1999, les États ont créé l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. C'est l'AMA qui définit sur un plan juridique ce qu'est le dopage.
En fait, le dopage, c'est l'ensemble des méthodes ou des substances qui augmentent la performance, qui abîment la santé ou sont contraires aux valeurs du sport.
En 2005, 191 États signent la Convention internationale de l'UNESCO contre le dopage dans le sport et s'engagent à harmoniser leur législation. Mais l'Agence mondiale antidopage n'a toujours pas de rôle opérationnel. C'est aux fédérations sportives qu'incombe la recherche des tricheurs. Et c'est là tout le problème.
Un extrait du documentaire de Xavier Deleu, Plus vite, plus haut, plus dopé, par Yuzu Productions pour Arte et LCP en 2016. Vous teniez, Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, ça a été votre grand combat, à parler du dopage et surtout de la lutte contre le dopage et de la création de cette agence antidopage en 1999.
Oui, parce que le combat est parti d'un combat franco-français, mais très vite, j'ai essayé de l'élargir à l'ensemble de l'Union européenne, on était un peu moins nombreux à l'époque, et puis ensuite de m'adresser aux autres États. Et il a fallu ensuite qu'on arrive, je dirais, très unis, les États, face au CIO, je dis bien face au CIO de l'époque, Comité international olympique, pour obtenir la création de cette agence mondiale antidopage. L'idée, c'était que si un seul pays luttait contre le dopage, ou certains pays luttaient contre le dopage, c'était l'inéquité dans le sport, etc. Alors aujourd'hui, l'AMA existe. En France, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui mène le combat. Mais l'AMA est quand même assez affaiblie en ce moment. Les États-Unis ont retiré leur financement. Et on n'entend pas trop les États agir pour que l'AMA retrouve toute sa puissance, toute sa force.
J'ai d'ailleurs retrouvé les chiffres pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 de l'International Testing Agency, donc cette agence internationale de testing antidopage créée en 2018 sous la tutelle du CIO et de l'AMA, l'agence antidopage. À Paris, elle a testé 39% des athlètes. Et sur ces 39%, elle a trouvé 5 cas positifs. J'aimerais votre œil d'ancienne ministre des Sports, de spécialiste du sujet là-dessus. Marie-Georges Buffet, j'arrive pas à savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup.
Qu'est-ce qui se passe ? Il y a encore des pressions ?
Non, puis il y a une course de vitesse. Il y a une course de vitesse par rapport aux moyens qui sont mis parfois pour trouver des formes de dopage qui sont moins détectables. Dans la loi olympique qui a été votée en France avant les JOP 2024, il y avait un article qui portait sur les tests génétiques. Parce que, voilà, le CIO s'inquiétait des modifications génétiques qui pouvaient être faites sur des athlètes pour optimiser leur performance. Donc c'est une course de vitesse. Il faut que les États mettent des moyens dans la recherche scientifique. Il faut que les États mettent les moyens sur les moyens de contrôle parce que tant qu'on aura une marchandisation du sport, tant qu'on aura une instrumentalisation politique du sport, la tentation du dopage sera présente. Donc la lutte n'est pas terminée. Il faut au contraire l'accentuer.
Mais si le CIO et l'AMA, l'agence antidopage, ne testent pas tout le monde, c'est pourquoi à votre avis?
Non, il y a un problème de moyens. quand vous parlez avec les volontaires, parce que c'est quand même des volontaires hein, qui font ces tests, y compris pendant les JOP, ce sont des volontaires. Je parlais récemment avec l'un d'entre eux, bah, il faut des moyens, il faut qu'ils soient plus nombreux, il faut qu'ils soient formés, etc., etc.
Vous avez dit récemment au Berry Républicain qu'il y avait une forme de tolérance en France sur le dopage quand vous avez pris vos fonctions en 1997.
Il y avait une tolérance complète. Enfin, je veux dire, j'ai parlé avec des sportifs qui m'expliquaient que quand ils rentraient dans l'équipe, et là c'était une équipe professionnelle, bah, c'était normal. C'était. Voilà, les autres le faisaient, ils le faisaient parce qu'ils étaient membres de cette équipe. Et rappelez-vous les réactions quand il y a eu les premiers contrôles sur le Tour de France 98 et tout. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on venait les embêter sur cette question.
On vous en voulait.
Oui, mais ça, c'est pas grave.
Je pense surtout à celui qui a fait beaucoup parler à l'époque, le contrôle inopiné antidopage chez les Bleus, qui s'entraînait à Tignes en 98, juste avant la Coupe du Monde. Là, vous racontez, j'ai failli flancher tellement vous avez eu des pressions, oui, notamment médiatiques.
Oui, parce que c'est extraordinaire d'ailleurs, parce que qu'on fasse des contrôles dans le cyclisme, tout le monde à la limite l'admettait, mais qu'on touche au foot, alors là, c'était le sacrilège. Et c'est vrai que c'était en plus l'équipe de France, et qu'on était à l'aube de la Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'il y a eu une pression médiatique, il faudrait relire, regarder, écouter ce qui s'est dit dans les médias. C'est vrai qu'il a fallu que quelques membres de mon entourage au ministère me disent « tu lâches pas surtout » parce que ouf, j'en ai pris un peu plein la figure à ce moment-là.
Et qu'est-ce qu'il a donné ce contrôle ?
Pas de contrôle positif, bon, voilà, mais il fallait le faire.
Alors il y a quelques semaines, Marie-Georges Buffet, le 5 février 2025, vous étiez à Bourges pour inaugurer le gymnase des Merlattes qui porte désormais votre nom. C'est très rare qu'on attribue des noms, enfin qu'on donne des noms à des établissements publics alors même que les personnes sont vivantes, vous le savez.
Oui, mais c'est pour ça, lors de cette inauguration, j'ai surtout rendu hommage à travers cela à tous les bénévoles du mouvement sportif et notamment à toutes les femmes qui agissent dans ce mouvement sportif, parce que c'est pas facile d'être une femme dans le mouvement sportif. Et donc voilà, j'ai voulu que ce soit un hommage pour elles. Surtout, pas pour moi, mais pour elle.
Que pouvez-vous nous dire, pour finir, Marie-Georges Buffet, de l'art d'être grand-mère ?
Peut-être tout simplement d'être disponible. Disponible lorsqu'il y a envie de parler, il y a envie de discuter. Peut-être tout simplement aussi expliquer ce que sont les valeurs de la République, pourquoi. Voilà, peut-être tout simplement... J'ai employé ce mot de disponible, je crois que c'est le plus important.
Merci d'avoir été disponible pour nous en ce samedi en direct. Marie-Georges Buffet, ancienne secrétaire nationale du Parti communiste français. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci à Léa Varin qui m'a aidé à préparer cette émission comme chaque semaine, à la réalisation Luc-Jean Reynaud, à la technique Ruben Carmazine et à la vidéo Edouard Rubinstein. Merci à tous et à samedi prochain.